Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint nos promenades à travers les sanctuaires de source en bravant le climat et certains petits problèmes de communication pour continuer donc notre exploration. La fois dernière, nous sommes enfin entrer dans le vif du sujet. Nous avons analysé la description et la définition des sources par les anciens, en commençant par les trois grandes fontaines de Rome, d'après les documents écrits, celle d'Apollon, dont on ne sait pas grand-chose, celle des Camènes et celle de Juturne, dont les sources nous ont gardé d'amples descriptions. Nous avons pu constater que le discours était toujours le même. Les sources sont salubres, intarissables, et possède parfois d'autres caractéristiques, des caractéristiques extraordinaires qui signalent l'activité d'une divinité. Ces traits sont également représentés sur d'un autre point de vue, sur un document archéologique, la Pater d'Otaniès, que nous examinerons d'un autre point de vue dans la suite, et toujours l'élément salubre est au premier plan, une qualité de l'eau qui aide les bien portants comme les malades. Toutes ces qualités, nous l'avons vu, sont réunies dans un autre texte relativement long de l'Antiquité tardive. Je parle de l'éloge par Ozone de la source d'Ivona à Bordeaux. Nous nous sommes ensuite attachés à un deuxième aspect de ces descriptions, aux divinités patronnant les eaux, en essayant de commencer un catalogue de toutes les divinités qui, d'une manière ou d'une autre, sont associés aux eaux, à commencer par les plus célèbres, les nymphes. Celles-ci sont présentées par les commentateurs antiques comme des vierges, ou plutôt comme des jeunes mariées qui ne sont pas encore matrones. C'est juste après leur mariage, si vous voulez, au moment du mariage. Ce qui interdit d'ailleurs de les considérer comme des déesses mères, sous peine de sombrer dans l'incohérence totale, parce que ça ne veut plus rien dire à ce moment-là. Elles ont une nature divine différente de celle des grands dieux, néanmoins, en ce qu'elles ne sont pas éternellement immortelles, semble-t-il, mais qu'elles peuvent mourir quand leur activité s'épuise. Je vous avais cité cette extraordinaire description d'un crime dans un mythe où quelqu'un tue un arbre qui appartient à Déméter, à Cérès, et l'arbre, qui est décrit comme une nymphe, expire pendant que le poète cueille ses derniers mots. Donc vous voyez qu'une nymphe peut s'évanouir quand son activité source, quand la source tarit en quelque sorte, il n'y a plus de nymphe. Sonore, les nymphes sont liées à la poésie, à la parole inspirée, à la poésie et donc aux muses, et leur relation avec Apollon, autre dieu sonore, s'explique très facilement. Leur activité même peut être divinisée, puisque leur puissance, leur noumen, comme disent les textes, et leur force, leur viresse, au pluriel, sont également divinisées. Autre dieu de l'élément aquatique, Neptune, un dieu qui patronne la force qui est dans les eaux, de toutes les eaux, qu'il s'agisse de sources, d'étangs ou de cours d'eau, et plus tard, quand les Romains se trouvent au contact de la mer corruptrice, eh bien, il sera aussi le patron de la mer, mais c'est secondaire, ce n'est pas du tout le dieu de la mer au départ. C'est, si nous cherchions un dieu global des eaux, ce serait Neptune, si vous voulez. Mais les Romains ne raisonnent pas comme cela. D'autres divinités encore apparaissent associées aux divinités liées à l'eau et qui ne sont pas toutes en rapport direct avec l'eau, comme Claude Bourgeois l'a judicieusement rappelé. D'abord, un dieu peut posséder une source sans qu'on puisse en déduire immédiatement qu'il était cette source ou qu'il habitait cette source ou qu'il guérissait par cette source. Ainsi, pour prendre un exemple sur la Via Appia, un affranchi de l'empereur Marc Aurèle a fait représenter sur un bas-relief Hercule. L'image n'est pas très bonne, mais vous voyez Hercule et Mercure, pardon, vous le reconnaissez au Caducée et à la Bourse, n'est-ce pas? Ils sont des buts sur un rocher qui se trouve au-dessus de quelque chose qui semble être une source qui sort d'un rocher et qui va vers un monsieur couché, un monsieur barbu couché, un fleuve. Donc, c'est, comme nous sommes sur la Via Appia, c'est sans doute une source qui coule dans l'Agno qui passe à côté, qui est un affluent du Tibre. Et là, vous trouvez les trois nymphes dans leur nudité. Là, un jeune homme pris par deux nymphes, ou etc. Est-ce que c'est une évocation d'une surprise, de quelqu'un qui a vu les nymphes, etc. Je ne trouve pas d'explication correcte pour cela. Donc, cet affranchi de l'empereur Marc Aurèle fait représenter sur ce bas-relief un certain nombre de fontaines, enfin une fontaine avec deux divinités qui la surplombent, et avec une inscription d'après laquelle cet Epitunkanus, affranchi de Marc Aurèle César, etc., a restitué le titulus, l'inscription. Est-ce qu'il a restauré l'inscription ? On ne sait pas, on ne comprend pas très bien, pour la fontaine et les nymphes. Ce qu'on comprend en regardant l'image, n'est-ce pas, c'est qu'il a manifestement cette source, c'est ça qui nous intéresse. Vous voyez que l'inscription a été un peu abîmée. Il y a une inscription chrétienne dessus, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le fait que, manifestement, une source déverse dans l'Agneau ou dans le Tibre, peu importe, et qu'il y a des nymphes qui sont près de l'eau, mais qu'il y a deux patrons de la source, Mercure et Apollon. Et Hercule, pardon. Mais revenons encore à Apollon, puisque nous avions déjà évoqué son cas. Quel est le rapport d'Apollon, par exemple, avec les sources, avant d'en venir aussi à Hercule ? Nous verrons qu'en Italie et dans les provinces, Apollon est fréquemment associé aux nymphes, c'est-à-dire à telle ou telle source. Comment comprendre cette présence ? Il faut commencer par regarder la fonction propre du dieu, et peut-être une des raisons qui le lie aux nymphes ou au Camen, et pas dire « c'est un dieu des eaux puisqu'il est allié à ». Non, il faut d'abord revenir à Apollon et aller d'Apollon vers les nymphes et vers les eaux. Certes, on lit de ci, de là, encore aujourd'hui, une interprétation qui remonte à Émile Thévenot et qui a imaginé des interprétations qui figurent parmi les plus surréalistes de la religion et de la théologie gallo-romaine, selon laquelle donc les sources prodigueraient le bienfait de deux divinités, Apollon et la Terre. Je cite Apollon, l'élément moteur est le soleil, tenu pour régulateur suprême de toutes les manifestations dont le ciel est le théâtre. Le partenaire féminin n'est autre que la terre, dont la force génératrice a été pleinement comprise dès que l'agriculture a commencé à se développer. Fin de la citation. Ce genre de bricolage qui colle des bouts de mythologie et des interprétations naturalistes modernes à des données recueillies sur le terrain n'a aucun sens, puisqu'au mieux, il nous conduit au culte de fertilité, suivant le grand principe que tout est dans tout. Il est préférable de prendre les choses à la base, beaucoup plus modestement et en nous armant, je m'en excuse encore, du scepticisme du pur intellectuel, et en voyant comment Apollon se présente à Rome, puis d'examiner les situations en Gaule ou dans le monde romain. À Rome, Apollon est Medicus, comme Georges Dumézil l'a rappelé avec force dans son histoire, enfin, la religion archaïque romaine. Il défend Apollon contre la maladie, l'épidémie, et en tant que défenseur puissant contre ce genre de fléau, il est d'ailleurs installé à proximité de l'autel de Mars, le dieu de guerre, n'est-ce pas, qui défend aussi les Romains et leur territoire contre toutes les agressions. Même si plus tard, Apollon est souvent représenté dans les arts et même dans le culte comme le fils de Latone et le frère de Diane, il reste à Rome, notamment sous la République, au moment où ses traditions se créent, un dieu défenseur contre le mal. Tite Live souligne, à propos de l'instauration des Ludi Apollinares, des jeux d'Apollon, en 208 avant notre ère, ceci. Beaucoup de personnes croyaient, dit-il, que c'était en raison de la valetude d'eau que ces jeux avaient été institués, alors que le vœu qui les fondait avait été pris en vue de la victoire. Vous le voyez, victoriae non valetudinis ergo, en raison de la victoire et non de la santé, puisque là, on était en plein milieu des guerres de la Deuxième Guerre punique. Cette remarque prouve en tout cas qu'à l'époque de Tite-Live, début de notre ère, au plus tard, beaucoup de Romains cultivés considéraient désormais Apollon comme un dieu de la valetudo, de la santé. Quel est son rapport avec l'eau alors? D'abord, sa fonction classique de guérisseur, de medicus, peut expliquer ce rapport si la source en question est salutaire ou guérisseuse. Nous avons vu qu'une source apollinienne a existé à côté de son temple à Rome, et on peut imaginer qu'elle a joué un rôle quelconque dans ses cures, mais nous n'avons pas de traces. Nous connaissons aussi le rapport entre Apollon et les nymphes. Là encore, le rapport est sans doute plus proche de sa fonction qu'on ne l'imaginerait. Si, comme j'ai dit, le mode d'action d'Apollon est lié, d'après Georges Dumézil, encore lui, à la sonorité, comme le titre, très beau titre de son image, de son ouvrage le rappelle, eh bien, si Apollon est lié à la sonorité, nous pouvons tout de suite entrevoir pour quelles raisons il pourrait patronner une source avec son murmure incessant. Mais en même temps, comme Dumézil l'a également précisé, Apollon, dont Horace écrit dans l'hymne séculaire de 17 avant Jésus-Christ, que Augure, paré de son arc étincelant, émet des neuf camènes, des neuf muses, n'est-ce pas ? Lui qui, par l'art de guérison, soulage les membres fatigués du corps, eh bien, il guérissait au cou aussi, selon certaines traditions, même en supprimant les blessures, par une espèce d'intervention miraculeuse qui lui est propre. Nous verrons dans le détail ce que les documents plus précis où on voit Apollon à l'œuvre près d'une source nous permettent de dire. Mais revenons à Hercule, que nous avions vu sur la Via Appia, près de cette source que la franchise de Marc Aurèle a restaurée d'une manière ou d'une autre. Hercule est aussi présent auprès des sources, en Italie comme ailleurs. Son premier rapport avec les sources provient de ce qu'il est un grand découvreur de sources, qu'il est réputé avoir fait jaillir d'un coup de massue dans le cadre de son œuvre civilisatrice à tel ou tel endroit. Il se déplace, il voit un endroit, il donne un grand coup et la source naît. Donc il est associé à beaucoup de mythes de naissance de grandes sources. On peut aussi, d'ailleurs, s'interroger comment il intervient dans une source quand il ne l'a pas découverte. Est-ce que c'est comme propriétaire? Certainement. Est-ce que c'est comme guérisseur? Prenons le cas, bon, le propriétaire, vous verrez régulièrement des cas où un grand dieu possède une source. On y reviendra. Hercule comme guérisseur près d'une source, est-ce que cela a un sens et comment le comprendre? Citons un témoignage provenant de Maurétanie, de Miliane exactement. Il ne concerne pas une divinité aquatique, mais bona valetudo, la bonne santé. Valetudo, c'est la santé physique vraiment. Hein. Ce n'est pas simplement l'intégrité physique et morale de quelqu'un ou d'une chose. C'est vraiment la santé physique. Donc bona valetudo, qui est clairement donc lié à la santé, à la guérison. Or, sur cette inscription, un personnage fait une dédicace à Bona Valetudo, bonne santé, ex responso Herculis, sur la recommandation oraculaire d'Hercule. Là, vous avez un cas assez intéressant où un dieu, manifestement, on ne sait pas s'il est à côté d'une source, pas du tout, hein, là, on n'a aucune indication, mais en tout cas, dans un culte de guérison, d'une divinité qui est préposée à la bonne santé physique, eh bien, elle intervient, elle est intervenue à la suite d'un oracle pris auprès d'Hercule. Hercule a, de ci, de là, des oracles, comme par exemple à Ostie. Ça ne veut pas dire que nous sommes dans un contexte de source, mais c'est simplement pour comprendre si Hercule peut intervenir dans la guérison. Donc, il peut donner des oracles, comme n'importe quel dieu, d'ailleurs, à ce propos. Il intervient donc dans le processus de la médication, de la guérison, mais en envoyant les patients, en consultant chez des collègues spécialisés, chez le spécialiste en quelque sorte. Nous sommes en régime polythéiste, ne l'oublions pas. Il n'a pas besoin de tout faire. On n'imagine même pas qu'il puisse tout faire tout seul. Mais on peut encore penser d'une autre manière ces interventions. On peut toutefois imaginer aussi qu'il intervient, comme toute divinité peut le faire, pour aider un malade, par son mode d'action propre, pas simplement par sa sagesse supérieure, mais en faisant vraiment ce qu'il est censé faire toujours. Et quelle est cette fonction ? Eh bien, pour Hercule, la fonction première, le mode d'action premier, c'est d'être victor et invictus. Il est le vainqueur, le toujours invaincu. Il est celui qui peut vaincre la maladie, celui qui ne peut être défait par la maladie, qui n'a jamais été défait par un ennemi et donc aussi par l'agression d'une maladie. En Gaule, par exemple, c'est à ce titre que le dieu Mars, un autre dieu guerrier dont que je viens déjà de mentionner à propos d'Apollon, est invoqué dans un poème d'un sanctuaire de Mars près de Coblenz en tant que défenseur contre la maladie ou comme sauveur de quelqu'un pendant une maladie. Mais plus vraisemblablement encore, comme Georg Vissot va là déjà souligner, c'est en raison de son mode d'action, la suppression des mots qui correspond en pays grec au titre de Héraclès Alexikakos, n'est-ce pas, que Hercule intervient. Et vous avez toute une série d'épithètes, n'est-ce pas, salutaris, tutor, defensor, conservator, je n'ai même pas besoin de traduire, c'est celui qui protège, qui défend, à cause de son invincibilité, de son caractère d'être toujours victorieux. Si vous en voulez une illustration, en voici une dans un petit poème épigraphique. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà un petit poème, pardon, épigraphique, où vous pouvez lire « Hercule invaincu, Hercules invicte, respecté petit-fils de Sylvain, tu es venu ici pour qu'il ne se passe rien de mal ici, ne quid hic fiat mali ». Et il y a ensuite même une félicitation au génie du peuple romain. On peut, donc ici vraiment, on a le dieu dans sa fonction première. On peut aussi citer un objet magique, souvent associé à la défense contre la maladie, comme cette gemme sur laquelle on voit Héraclès étranglant le lion de Némée, sa massue posée derrière lui comme si elle formait le début de l'inscription qui entoure l'image du dieu et qui s'adresse à la bile pour lui demander, donc contexte de maladie physique, pour lui demander, je traduis, « Retire-toi, la divinité te poursuit ». Et elle va faire avec la massue comme elle a fait avec le lion de Némée, n'est-ce pas ? C'est l'invaincu, le toujours victorieux. Les invocations donc, d'Hercule comme salutaris ne concernent d'ailleurs pas, souvent pas des malades, mais des groupes de personnes qui demandent manifestement d'être protégées dans leur salus, donc un concept, je le répète et je le répéterai toujours, qui dépasse largement la maladie physique et désigne simplement l'intégrité physique et morale. Je prends un exemple de ce genre d'invocation à Hercule salutaris parmi tant d'autres, d'ailleurs pour la plupart originaires de Rome. Ainsi, sur cette inscription, oui, c'est celle-là. Les compagnons sodales du sogalicium, du compagnonnage des cohortes des greniers de Galba, situé sur la rive gauche du Tibre à côté du Testaccio actuel, c'est-à-dire des affranchis et des esclaves travaillant dans ces grands greniers publics, eh bien ainsi ces esclaves offrent-ils une chapelle à Hercule salutaire, enfin au noumen de la Domus Augusta et à Hercule, n'est-ce pas ? Et ils lui demandent de veiller, il ne s'agit pas d'une source miraculeuse qui est ici en cause, ni d'un hôpital ou d'un sanctuaire guérisseur, mais d'un lieu de travail où Hercule est prié de veiller sur ses greniers, « Ne quid fit mali », pour citer l'inscription que j'ai citée tout à l'heure, « qu'aucun mal ne se produise ici, la salus de ces greniers et de ces ouvriers doivent être maintenues, leur intégrité. Autrement dit, Hercule intervient en tant qu'alexikakos, chasseur du mal, qui évite que quelque chose de mal se produise. Nous pouvons d'ailleurs appliquer ce principe à ses interventions dans des lieux de culte où des guérisons sont attestées. Il intervient par ses propres ressources et non par la source. Au besoin, il se sert de la source, qui est dans ce cas une autre divinité spécialisée vers laquelle il envoie ses patients, par exemple, mais il peut toujours aussi intervenir personnellement. Alors qu'Hercule et Apollon peuvent intervenir dans le processus de la maladie par leurs propres moyens, même s'ils signalent à leurs adorateurs l'existence d'une source de bonne qualité, salutaire ou bien pourvue de qualités guérisseuses, ils ne le font pas en tant que techniciens de la médecine. Sont, en revanche, de véritables médecins Esculape et sa parèdre Hygia, parfois appelée Salus, ce qui peut provoquer chez les modernes des confusions entre la Salus traditionnelle, qui patronne le bien-être physique et moral général des êtres et des choses, et Hygi, qui est l'effet de l'intervention d'Esculape, c'est-à-dire la santé physique demandée ou retrouvée. Vous avez de nouveau le cas de l'association d'un dieu à une divinité que, pour faire vite, nous appelons abstraite, mais qui est en fait une autre divinité qui exprime uniquement l'action du dieu, le résultat, la santé retrouvée ou demandée. Dans ce sens, on trouve parfois également Valetudo, qui est plutôt rare, mais qui paraît toujours avoir patronné, comme je l'ai dit, la santé physique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 2 ans, j'ai précisé ici même que les vœux pour la Salus d'Octavien Auguste, il ne fallait pas les confondre avec les vota pro valetudine du même Auguste, qui paraissent avoir été liés à une vraie maladie, alors que les vota pro salute concernaient l'intégrité générale du commandant des troupes romaines dans la guerre contre Cléopâtre. Valetudo figure aussi sur le dos d'un hôtel dédié à Belenus, en Italie du Nord, à Aquilée, avec une jolie faute d'orthographe, d'ailleurs. Si le rapprochement est exact, vous voyez que la source appartient à Belenus, puisque l'inscription à Belenus est sur la face principale, mais qui agit avec son aide, Valetudo. Et on se trouve à proximité d'une source, et donc on voit que Valetudo, en quelque sorte, est le résultat de l'intervention du dieu. Il ne faut pas généraliser. Même Valetudo peut être prise dans un sens beaucoup plus général. Plus au sud, à Arcella, en Étrurie méridionale, dans les Monti Cimini, les monts Cimins, à côté du lac de Vico, près d'une source, ou en tout cas d'un cours d'eau, se trouve une dédicace votive, taillée sur le rocher, qui est faite par un homme à la Bona Valetudo, près d'une source, oui, d'un cours d'eau, comme j'ai dit. Cette dédicace est faite, voici la transcription, par un homme à Bona Valetudo, la bonne santé, littéralement, et par son épouse à Bonadea, n'est-ce pas, Castrensis. Dans ce contexte, Valetudo prévient du mal plus qu'elle ne rétablit la santé à un moment troublée par une maladie, même si elle est installée à côté d'une source ou d'un petit cours d'eau. On constate qu'il s'agit apparemment d'une protectrice du mari, alors que la femme s'adresse à Bonadea, une déesse typiquement féminine. On peut imaginer que leurs vœux concernaient, par exemple, des événements familiaux, les cycles de la vie autant que leur santé. La Bonadea Castrensis, que l'inscription mentionne, est romaine, c'est-à-dire originaire de Rome même, qui se trouve à 40 kilomètres. Elle a une chapelle sur l'Esquilin, à côté du château d'eau d'un cours d'eau, de source, qui s'appelle l'Agno Vetus. Et elle s'appelle Bonadea Castrorum Fontanorum. Donc c'est la Bonadea du château d'eau des fontaniers, de ceux qui s'occupent des fontaines de Rome. Le nom de la source elle-même à Arcella n'est pas connu, n'est-ce pas? On n'a que ces deux divinités. Et l'eau, dans ce contexte, est-ce que c'est une eau qui a un rôle dans le culte? Pas d'après notre inscription. Elle est simplement, l'inscription est là, il y a ce petit sanctuaire à la campagne, parce qu'il y a de l'eau, parce qu'il faut aussi de l'eau pour célébrer le culte, par exemple, pour se laver, pour se baigner, et tout ce que vous voulez. Mais on peut imaginer qu'il y avait également autre chose. Mais revenons à Esculape, fils d'Apollon, donc dans une certaine mesure, expression lui-même de l'intervention de son père. Esculape est un vrai médecin. On peut à la limite le considérer comme une sorte de divinisation de l'épiclèse medicus, propre à Apollon. Apollon medicus, Apollon virgule Esculape, son fils. Donc c'est l'activité guérisseuse d'Apollon en quelque sorte. Et Hygie, la troisième dans la cascade, est le résultat de l'activité d'Apollon à travers Esculape qui ramène la santé. Contrairement à son père, Esculape est un vrai médecin, comme je dis. Il n'agit pas, par exemple, comme Apollon, en rétablissant l'ordre, en supprimant les blessures dans certains mythes, etc., en combattant de ses flèches les épidémies, etc. Mais Esculape est un vrai médecin qui touche le malade, qui donne des conseils directs, comme le ferait un médecin, alors que, je l'ai dit, Apollon, son père, intervient de loin et se contente d'exercer son pouvoir. Esculape est, pour ainsi dire, l'effet ou le mode d'action divinisé du Dieu qui guérit, qui rétablit l'ordre. Il n'est en tout cas pas étonnant de retrouver Esculape dans un sanctuaire de source, puisque ses activités peuvent se dérouler à cet endroit. On peut même en conclure que la source participe à son activité de médecin. Mais Esculape n'est pas un dieu de source, de la source. Citons un exemple qui le démontre. À Hammam Biada, en Tunisie, les eaux Aptoukenses reçoivent en don deux statues d'Esculape de la part de deux dames de rang sénatorial. Esculape n'est donc pas le dieu de ces eaux ni leur nom. Sinon, la dédicace serait absurde, puisqu'on offre un Esculape d'argent aux eaux de Aptoakenses. De même, certains documents attestent la collaboration entre le dieu médecin et une source, comme à Vicarello en Étrurie ou sur l'île d'Ischia. À Vicarello, nous le verrons quand nous visiterons ce lieu de culte, les nymphes sont associées à Apollon, ou alors à Apollon et à Sylvanus, ou encore à Apollon, Sylvanus et Esculape. De même à Ischia, les nymphes sont associées à Apollon tout seul. Généralement donc, les sources ne guérissent pas seules, elles non plus. L'eau seule ne suffit pas. Elles jaillissent, les eaux, de façon miraculeuse et ont un caractère donné, parfois honoré à part. Elles sont éventuellement salutaires, utiles, tout ce que vous voulez, mais les divinités qui s'en servent sont les divinités médicales et même, à la limite, toutes les divinités protectrices qui agissent dans ce cas en s'aidant des sources. Il convient enfin d'ajouter encore la circonstance suivante pour expliquer l'importance des sources. Celles-ci constituaient une richesse, qu'elles soient chaudes, réputées salubres, intarissables, donc coulant tout l'été, ça peut être très important en Méditerranée, ou guérisseuses. Les autorités peuvent donc faire cadeau d'une source à telle ou telle divinité, même si celle-ci n'était pas du tout une divinité spécialisée dans la médecine, ce qui est un autre cas de figure d'association entre divinités, grandes divinités et sources et nymphes, c'est simplement la propriété, ça fait partie de son domaine. Et ainsi, le dictateur Sylla donna-t-il vers 80 avant notre ère à Diane Tifatine, dont le temple se situe sur une colline au-dessus de Capoue, des eaux fréquentées pour leur salubrité et pour le soin des corps, ainsi que toutes les terres. Donc, aqua salubritate medendis quae corporibus nobiles, notoire, célèbre. Et aussi toutes les terres autour. C'est un vrai domaine que le dictateur Sylla donne sur cette montagne qui surplombe Kapu à la déesse Diane. Diane est bien dans son élément, là, elle agit souvent à la limite de l'espace sauvage, ici la montagne, pour y combattre éventuellement la nature sauvage. Il n'est donc pas impossible pour elle d'intervenir contre les déséquilibres du corps, attaqué par le mal. Mais d'après la description de Valeius Paterculus, qui nous raconte cela et que je viens de lire, c'est avant tout une belle dotation qu'elle recevait du dictateur Sylla. Une riche propriété qu'une source réputée. Il convient de ne pas oublier ce cas de figure, celui de la source comme richesse. Elle joue certainement un grand rôle. Mais il est temps de laisser à ce propos la parole aux Romains eux-mêmes, à ceux qui faisaient et acquittaient les vœux et faisaient des dons aux sources. Voyons un peu pourquoi ils s'adressent à ces divinités. Donc on entre peu à peu dans le culte. Au lieu d'analyser dans l'abstrait les pouvoirs et les spécialités des divinités liées aux sources, tournons-nous vers les témoignages cultuels recueillis auprès des sources et des cours d'eau. Un grand nombre d'inscriptions ne nous apprennent rien, évidemment, car elles se bornent à dédier, en acquittement d'un vœu ou non, un objet, une base à la divinité. Un certain nombre de textes sont toutefois plus explicites. Il en ressort que les sources étaient sollicitées et remercier en fait pour de nombreuses raisons, qui ne sont pas toujours la guérison, j'y reviens encore. D'abord, un certain nombre d'hommages concernaient l'empereur, donc des comportements plus politiques que personnels. Ainsi, pour prendre un exemple, vers 230, près de Mayence, un certain Sextus Catius fait une dédicace aux Nymphae Laurentes, pour le salut de l'empereur Sévère Alexandre. Les nymphes Laurentes, le nom ne nous donne rien. Si j'étais très audacieux, je dirais que c'est celle de Lavinium. L'adjectif de Lavinium, c'est Laurens, n'est-ce pas? Mais il est évident qu'à Mayence, nous sommes quand même très loin de Lavinium. Il est bien difficile de savoir pour quelle raison M. Catius a fait cette dédicace pour l'empereur, pour la salus de Sévère Alexandre. L'invocation aux nymphes peut faire supposer que c'est pour des raisons salutaires, mais il n'y en a aucune preuve dans le texte lui-même, ni dans ce qu'on sait par ailleurs. Est-ce que ce personnage réagissait à une information concernant la saluté de l'empereur, peut-être en rapport avec le séjour de celui-ci vers 235? Ou s'acquitte-t-il plutôt d'un vœu plus politique portant sur l'intégrité de l'empereur que notre Catius acquitte? Si l'identification de Sextus Catius à un consulaire de cette époque est exacte, donc un haut responsable politique, on peut tout à fait soutenir une telle hypothèse. Les nymphes proches de Mayence offraient un cadre convenable pour ce vœu. Peut être un sanctuaire fréquenté, nous en verrons d'autres, par exemple en Afrique, par les militaires et l'entourage du gouverneur. Notons qu'il n'est pas impossible que Catius ait fait un vœu préventif auprès des nymphes locales pour la santé du prince, ou pour la salus du prince. C'est ce que peut nous laisser penser une jolie dédicace aux oreilles d'Esculape, découverte à Épidaure en Achaïe. Il s'agit d'une dédicace accompagnée de la représentation d'une paire d'oreilles, comme sur cette inscription de Glanum. Et on a souvent des inscriptions comme cela, où on a une belle paire d'oreilles, n'est-ce pas? L'inscription d'Épidaure rappelle ceci dans un distique que Cutius Gallus t'avait jadis voué ses oreilles, fils, C avec un C, n'est-ce pas? Fils de Phébus, c'est-à-dire fils d'Apollon, c'est-à-dire Asclépios, Cutius Gallus t'avait voué jadis ses oreilles, fils de Phébus, et saint des oreilles, il les a dressées. Il me paraît clair que le vœu de Cutius Gallus était préventif. Il a promis à Esculape une paire d'oreilles si, dans un délai que le distique ne donne pas, il n'avait pas de problème de santé et, d'après le texte même, de problèmes de santé aux oreilles. Le vœu d'oreille avait chez lui un sens double. D'une part, il appartenait, comme à Glanum par exemple, à une tradition répandue qui consistait à offrir des oreilles aux divinités qui avaient exaucé ou qui exauçaient les demandes. C'est ce qu'on appelle les théoi, les dieux epekoi, les dieux exauceurs en quelque sorte, qui exauçaient. Et comme l'atteste par exemple cette dédicace de Apulum en Dacie, qui est offerte aux oreilles d'Esculape et d'Hygie, ainsi qu'à Apollon et Diane, par trois frères, qui évidemment, vous le voyez une fois de plus, n'étaient certainement pas malades en même temps. Simplement un vœu générique pour la fratrie à tel ou tel moment de leur vie, ils passent ce cap et ils acquittent leur vœu puisqu'ils sont toujours en bonne santé. Pour Cutius, toutefois, le vœu a un double sens, n'est-ce pas ? Il s'agissait apparemment aussi de ses propres oreilles. Il avait peut-être des gros problèmes d'otite à la sortie de l'enfance et il a pris ses devants pour la suite. Et ayant conservé, comme l'écrit Horace dans la Satire 3 du livre 2, ayant conservé le bon usage de ses deux oreilles, eh bien, il acquitte son vœu le jour où il était échu. Cette pierre, pour nous avertir contre la surinterprétation des inscriptions, même chez les dieux médecins. Certaines dédicaces et certains vœux portaient surtout sur la bonne santé gardée pendant une période donnée. D'autres se rapportent à des faits de santé proprement dit au moment où on fait la dédicace. C'est-à-dire, ça revient à dire que la plupart des inscriptions que nous avons sont posées par des gens en bonne santé ou qui ont retrouvé la santé. Ne sont pas des malades en général. C'est fini ou ça n'a jamais eu lieu. Lisons ce texte, par exemple, qui figure sur une base de Mehadia en Dacie, sur le Danube. Cinq voyageurs y acquittent, sous Antonin le Pieux, au milieu du IIe siècle, un vœu aux divinités et puissances divines des eaux pour être revenus sains et saufs, in columes, d'une ambassade à Rome. Pour comprendre l'étrange dédicace aux dieux et aux numina des eaux, des dieux et les puissances des eaux, il suffit de se rappeler la dédicace de Velleia aux nymphes et aux virès, c'est-à-dire aux nymphes et aux puissances divines, de toute évidence celles qui agissaient dans l'eau. Ici, vous avez le même principe. Nulle maladie, donc, mais seulement l'incolumitas, le salut général, pendant le voyage à Rome d'un groupe de personnes. Et à leur retour, acquittement du vœu formulé au départ. Nous ne pouvons malheureusement pas deviner pour quelle raison nos ambassadeurs se sont précisément adressés aux divinités et puissances des eaux, car la consommation de cette eau ou le bain dans celle-ci n'était absolument pas en cause pendant un aussi long voyage. Comme il s'agit de l'acquittement d'un vœu, la demande portait donc sur le temps du voyage, et il n'est pas question d'une cure des ambassadeurs à leur retour. Est-ce que, une fois de plus, nous sommes dans des zones où il y a beaucoup de fonctionnaires, de militaires, etc., et souvent les sanctuaires de source qui ont été créés souvent par l'armée dans ces zones que les Romains ont investies récemment servent de sanctuaires régionaux, par exemple. Est-ce que c'est pour ça ? C'est une possibilité, mais je ne peux pas vous en dire plus. Une inscription de Sabine découverte près du fleuve Velinus à Borgo Velino, pourrait également célébrer un bon retour, mais je vous la signale parce qu'on voit tout de suite de nouveau les problèmes que rencontrent les épigraphistes quand ils essayent de comprendre cela. L'inscription est beaucoup trop laconique pour nous permettre de décider si l'épiclèse redux que porte Diane renvoie à un voyage accompli par l'intendant Sun Histor en 5 avant Jésus-Christ. Vous lisez que les nymphes appartiennent à Diane du bon retour, ce qui est d'ailleurs intéressant. Lymphis Dianae Redicus, Reducis. C'est adressé aux nymphes de Diane du bon retour. Nous avons parlé il y a quelques années d'autres nymphes qui se trouvaient dans le quartier des Parioli à Rome, les nymphes de Anna Perenna. Donc vous voyez qu'une divinité peut posséder une source, c'est ça que cela veut dire. Donc on fait cette dédicace aux nymphes de Diane du Bon Retour. Alors qu'est-ce qu'on peut en conclure? La dédicace s'adresse donc à la source de Diane et révèle la complexité du contexte. Ou bien Sun Histor a fait ou va faire un voyage, il n'est pas question de vœux ici, on ne peut donc pas dire si c'est simplement en remerciant ou au moment où il part. Il offre une dédicace, il offre quelque chose aux nymphes de la déesse Diane, Redux, qui doit le ramener ou qui l'a ramené, on ne sait pas trop. Et il a dû, avec cette inscription, cette base, a dû soutenir ou signaler qu'il a donné quelque chose à cette source, un ornement, un équipement, une réparation, etc. Et c'est cela qu'il offre à la nymphe et par elle à leur propriétaire, Diane, de son bon retour. Mais tout cela est une interprétation que je reconstitue comme cela, mais le texte, je vous le répète, est trop laconique pour permettre de choisir entre telle ou telle solution. Beaucoup de remerciements aux nymphes et aux autres divinités de source concernent tout banalement la découverte, l'aménagement ou le retour d'une source, d'une eau. Sept témoignages, par exemple, rendent compte de ces événements. Trois inscriptions commémorent par la dédicace d'une statue, d'une chapelle, d'un bassin ou d'un aqueduc, la découverte et le captage d'une nouvelle source. Lisons la plus verbeuse qui provient de Dalmatie, Yougoslavie ancienne, n'est-ce pas ? Consacrée aux nymphes augustes, Gaius Raicius Leo a dédié l'eau aquam. Aqua veut aussi dire, dans certains cas, l'eau captée, c'est-à-dire l'aqueduc, la conduite, n'est-ce pas ? Je traduis simplement l'eau, n'est-ce pas ? A dédié l'eau dont aucun des anciens ne se rappelait l'existence dans la cité, et qui avait été découverte par la dépense et l'initiative de son patron, Gaius Raicius Rufus, homme clarissime, ce qui veut dire qu'il est sénateur à Rome, le 8 novembre sous le consulat de Severus et Pompeianus pour la deuxième fois, soit en 175 après Jésus-Christ. D'autres rappellent l'aménagement d'une source. Par exemple, à Firmum Piceni, un tel a conduit l'eau jusqu'à la ville, dédicace aux deux nymphes, ou aux nymphes d'un Géminus, n'est-ce pas ? À Velleia, vous l'avez déjà vu, quelqu'un dédie la source et tout, avec un beau solécisme de ce monsieur qui a fait cette dédicace, il a fait tout le travail d'aménagement, sans doute. Et puis à Lambèse, très beau aussi, dédicace à la puissance de l'eau alexandriane, et le motif, c'est parce que la nymphe a inondé l'Ambèse d'un vaste flux, d'un vaste flot, n'est-ce pas, d'un fleuve, littéralement. D'ailleurs, l'eau a été banalement amenée à l'Ambèse. Découverte de l'eau, où l'eau a été ramenée. D'autres textes concernent ceci, pardon, ces nouvelles découvertes de l'eau, n'est-ce pas ? Apulum, nous l'avons vu, Sinuessa, découverte de nouvelles nymphes, et à Arba, en Dalmatie, vous avez également de nouveau ce texte de la redécouverte de l'eau. Enfin, une troisième catégorie de dédicaces aux nymphes remercie les divinités pour le retour de l'eau. Ainsi, voilà encore un exemple, à Vicence, n'est-ce pas, où un fils de sénateur acquitte un vœu aux nymphes et aux lymphes, exprimant sa gratitude digne de Pagnol pour le retour de l'eau, par l'emploi des noms grecs et latins des nymphes, nymphis et lymphis, n'est-ce pas ? C'est une sorte de faconde qui exprime la joie du retour de la source. Mais nous trouvons bien évidemment aussi quelques beaux témoignages de l'intervention des nymphes dans un processus de guérison. Ne me faites pas dire que je nie toute guérison, n'est-ce pas, par l'eau des nymphes. Dans une dédicace à Esculape et Hygie, vous voyez tout de suite que les médecins sont présents. Ceux-ci sont remerciés en acquittement d'un vœu fait pour la salus de Iunia Curilla, pro salute Iuniae Curillae, donc on emploie le terme salus. Vous voyez, peut-être par le fait que Hygie est présente et qu'il y a comme cela des glissements de sens. Mais vous savez, les anciens ne sont pas toujours très logiques comme nous-mêmes dans l'emploi du vocabulaire. En tout cas, ils sont remerciés, les dieux médecins, parce qu'ils ont rappelé Iunia d'une longue infirmité par la force des eaux de leur puissance divine. Le latin est un peu chaotique, si vous voulez, mais c'est clairement « numini aquarum » par la puissance de l'eau de leur puissance divine. C'est une double puissance divine qui intervient. Ou il faudrait dire « aquis numini sui » par les eaux de leur puissance divine. Les sources sont donc, ou la source est donc associée à Esculape et à Hygie, et elle est, cette eau, l'instrument de leur volonté. Elle a son noumen ou sa force propre, mais qui obéit à leur puissance. Les nymphes ne soignaient pas que les bien portants et les malades, les humains. Elles s'occupaient également des animaux malades, ce qu'on oublie très souvent. On trouve souvent aussi des petits ex-voto de vaches, de cochons, etc., qui peuvent être des symboles d'offrandes sacrificielles, qui signifient la même chose que j'ai fait ici un sacrifice à, etc., mais qui peuvent aussi être simplement un ex-voto de guérison de ces animaux. Je vous en donne un bel exemple qui provient de Tivoli, des Aquae Albulae, les eaux blanches. Une source hypothermale qui surgit en bouillonnant à 23 degrés et comprend du soufre, ce qui fait qu'elle sent assez mauvais. Virgile, Vitruve et Donna, les deux commentateurs Servius Donna et puis l'architecte Vitruve, insistent sur sa froideur et sur son odeur méphitique. C'est par le texte de Virgile que le terme méphitis, qui d'abord exprimait simplement, c'était l'adjectif d'une divinité qui s'appelait méphitis, c'est là que le terme a pris, semble-t-il, le sens de nauséabond, d'odeur nauséabonde, odeur méphitique, comme nous disons. Donc c'est un monument lexical, si vous voulez. En tout cas, on signale donc cette source des Aquae Albulae par son caractère étonnant, bouillonnement, donc des gaz, de soufre, mais à basse température, ce n'est pas une source chaude, et elle guérit. Parmi d'autres ex-voto trouvés à cet endroit, une belle base raconte dans des distiques élégiaques, un peu laborieux, la guérison du cheval Samis, blessé par un sanglier du côté de Rosselle, en Étrurie méridionale, sans doute lors d'une chasse. Je vous lis le texte. Le faible Samis, qui s'était tenu dans le gouffre d'Albunea, afin de faire dégonfler par les eaux guérissantes ses articulations, vit tout d'un coup se dénouer ce qui était enflé, blessé par la dent étrusque et le sanglier de Rosselle, c'est-à-dire blessé à Rosselle et en Étrurie par un sanglier local. Maintenant que déjà les tendons sont redevenus fins, que sa cicatrice s'est fermée, et que le cheval, en raison du bienfait reçu, a commencé à courir rapidement, il se donne lui-même en don de marbre, c'est-à-dire il donne son image en marbre, pour tes mérites, là où l'ympha, il te plaît de te tenir, à mi-chemin de l'endroit d'où le maître de Tibourg, qui se trouve en face, c'est-à-dire Hercule, regarde ton temple et la villa Aelia avec sa façade peinte. La villa Aelia, vous l'aurez compris, est la villa d'Adrien, ce qui permet de dater ce texte au plus tôt du principat d'Adrien. Donc les Aquae Albunae se trouvaient à mi-chemin entre Tivoli et la villa Adriana et regardaient à la fois la villa et le gros temple d'Hercule à Tivoli, qui surplombait donc la plaine. Et le cheval Samis, il avait été immergé, il avait fait des stations dans cette eau spéciale qui avait fait dégonfler ses, ses articulations, ses tendons avaient fermé, cicatrisé par le soufre sans doute la blessure, et on met au même endroit où il avait été mené une statue en marbre du cheval qui désormais est une offrande aux eaux Albunae. Les Aquae Albunae ou la nymphe Albunea, appelée Albula Lumpha dans ce poème épigraphique, ce ne sont pas les seules divinités dans ce lieu de culte autour de cette source. Parmi les dédicaces aux Aquae Albunae, on relève une inscription adressée par un prêtre de Mater Magna à Attis et une autre à Albula et à Isis. Pour cette dernière, certains collègues considèrent qu'il s'agit d'une Albula Isis, d'une Isis albunéenne, assimilation qui serait due, d'après Gianfranco Paci, à l'expansion des cultes orientaux, pour laquelle il cite aussi la dédicace à Attis, ainsi que la faiblesse intrinsèque de la divinité locale, incapable de résister à la grande déesse égyptienne. Bel exemple. Ce raisonnement typique de ce qu'on lit chez les historiens non spécialisés en questions religieuses ne me paraît pas pertinent. D'abord, rien n'oblige dans cette pierre à assimiler Isis et Albula. La juxtaposition des noms de divinités sont une chose assez simple, ça veut dire Albula, virgule, Isis, n'est-ce pas, ou et Isis. Ce sont deux divinités différentes. Pas un adjectif, ce sont deux nominatifs ou deux datifs, si pour être exact. Nous sommes dans un sanctuaire d'Albula, ça nous le savons, des eaux Albulae, de la nymphe Albunea ou tout ce que vous voulez. Et la distinction des deux déesses sur la pierre, hein, comme je l'ai marqué par la virgule, est une procédure épigraphique très banale. La théorie presque mécanique de l'assimilation de deux divinités qui se trouvent ainsi citées côte à côte, qui est très diffusée auprès de nos collègues italiens, notamment pour les déesses féminines, qui sont toutes censées exprimer l'archétype de la déesse mère, est fortement marqué par la phénoménologie héliadienne, sur laquelle j'ai déjà donné mon opinion. Avant tout, il faut nous dire que nous sommes en régime polythéiste et qu'il n'existe aucune raison pour assimiler les divinités l'une à l'autre, dès qu'elles se trouvent associées. Certes, mon ami Gianfranco Paci a raison de dire qu'Isis est une divinité infiniment plus répandue et plus puissante qu'Albula, mais dans ce lieu de culte des Aquae Albulea, donc devant Tivoli, elle se trouve dans un lieu de culte où elle n'est pas chez elle. C'est chez la nympha Albula qu'elle se trouve, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que d'ailleurs dans l'inscription, Albula se trouve en tête. À Rome, dans une énumération, le nom qui se trouve en tête est toujours le plus important. C'est toujours par ordre d'importance que les hommes et les dieux sont cités. Isis est associée par Ostorius à Albula en raison de sa puissance ou pour une raison qu'on ignore, parce qu'Ostorius, par exemple, lui est attaché d'une manière ou d'une autre. Ce que j'en déduis, c'est qu'Isis avait une statue, un autel, bref, une présence quelconque dans le lieu de culte pour des raisons qui nous échappent faute d'autres documents. Autrefois, pour exprimer cette liaison, les Romains ou les Italiques auraient écrit Isis Albulea, l'Isis du sanctuaire d'Albulea, qui donnait la même hiérarchie. C'est chez Albulea que nous sommes, Isis est une invitée. Ostorius prend en compte cette présence pour honorer Isis, non sans vénérer d'abord la véritable propriétaire du lieu, Albula, à la première place. D'autre part, l'acte cultuel d'Ostorius est beaucoup plus complexe, si vous lisez la suite, puisqu'il renvoie à ce même contexte polythéiste. Parce que qu'est-ce qu'il offre à Albula et à Isis? Eh bien, il offre aux deux divinités une diane, une troisième, c'est-à-dire une statue de Diane, qui ensuite pourra éventuellement recevoir un culte. Il ajoute une autre déesse, puissante dans le Latium, aux deux autres. Est-ce pour étoffer le caractère féminin du sanctuaire, parce qu'Isis est aussi une divinité chère aux dames? et son rapport avec le caractère extérieur du lieu du culte, proche de la nature sauvage, entre guillemets. Tout ça est symbolique. On ne sait, mais avant d'assimiler les divinités, il faut d'abord considérer tous les aspects de la dédicace. Que conclure de l'offrande d'une diane à Isis, qui est en quelque sorte censée avaler Al-Bula ? Qu'on assimile aussi Diane à Isis ou l'inverse ? Tout cela nous mène dans des conclusions ou des déductions absurdes. Il vaut mieux l'abandonner. Pour l'autre inscription que j'ai citée, celle qui concerne la Mater Magna, il en va de même. Cette pierre émane, cette dédicace émane d'un prêtre de Mater Magna, un prêtre local selon toute vraisemblance, car si sa fonction n'avait pas de pertinence sur le territoire de Tibour, de Tivoli, il aurait indiqué le lieu où il exerçait sa prêtrise. Pourquoi la dédicace à Attis auprès des eaux blanches, des Aquae Albulae, comme le précise l'inscription ? Une première explication réside dans la fonction de Iulius Iulianus. Prêtre de Mater Magna, il honore Attis, le jeune homme attaché éternellement à la déesse. Mais que fait Attis auprès de la nymphe Albula ? La raison en peut être qu'il y avait aussi un culte de Magna Mater à cet endroit. Ce ne serait pas déplacé, non en raison du caractère guérisseur de cette divinité salvatrice, salutaris. Elle sauve, comme elle a sauvé jadis Claudia Quinta au moment où elle a débarqué en Italie. Elle l'a sauvée d'une accusation calomnieuse. Ou bien Attis lui-même a été sauvé par elle dans des conditions tragiques de la mort éternelle. En pays grec, et chez Juvénal et Perse, on évoque les qualités médicales de la déesse Mater Magna, également appelée médecin, iatrinae, sur les inscriptions d'Attique. À Épidaure, chez Esculape, la déesse était accueillie dans le célèbre Asclepiaion, le célèbre sanctuaire d'Esculape. D'après le poète Juvénal, IIe siècle, les Galles, qui sont ces prêtres eunuques, qui sont ses serviteurs, et la prêtresse de Mater Magna auraient traité contre les fièvres. Et d'après le poète perse, de l'époque augustéenne, elle aurait traité contre l'hydropisie ou les tumeurs. Je cite Perse. Puis ce sont les noirs fantômes et les périls annoncés par l'œuf brisé, écrit-il, faisant sans doute allusion à un acte divinatoire. Ensuite, les Galles de grande taille et la prêtresse borgne avec son sistre, qui introduisent violemment en toi les dieux qui font enfler le corps, à moins que trois fois le matin tu ne goûtes à la tête d'ail prescrite. Ce sont des rites assez étranges et il s'agit vraisemblablement moins d'attaques d'hydropisie ou de tumeurs que de la maladie en général, comme l'atteste le tableau de Juvénal qui est plus précis. Le poète décrit, comme Perse, le défilé du clergé de la Grande Mère et notamment un eunuque énorme, gigantesque. Il mène grand fracas et décide qu'il y a lieu de redouter les approches de septembre et de l'austère, à moins qu'on ne lui donne en matière de purification, sentent eux avec de vieilles robes, nuances, feuilles mortes. Les prêtres mendient, les prêtres de la grande déesse mendient aussi. La menace de ce péril redoutable et subi s'en ira dans leurs plis et l'année tout entière sera en une seule fois exonérée de péché, ou de tort, de blessure. On le voit, il s'agit davantage d'une sorte de purification protectrice précédé d'une sorte de menace, d'une sorte de chantage de la part des prêtres mendiants pour énoncer le pouvoir de la grande mère que d'un traitement contre telle ou telle maladie. On peut aussi citer le mythe même de Mater Magna, de cette jeune femme exposée sur le mont Cybèle où elle fut élevée par une panthère et d'autres animaux sauvages. Hautement douée, la jeune femme, compétente au charme dans les charmes incantatoires, est présentée dans le mythe comme dotée du pouvoir de guérir les petits-enfants et les jeunes animaux. Donc par elle-même, elle peut, à la limite, d'après ce thème mythique, intervenir. Tout ceci explique parfaitement la dédicace de Iulius et l'éventuelle présence de la grande mère elle-même aux côtés d'Albula, comme on pourrait, par exemple, y retrouver Esculape, selon le schéma de l'association à des sources de divinités impliquées dans la guérison ou dans la préservation de la santé. Henri Graillot, l'auteur du grand livre sur Cybèle, encore irremplacé de nos jours, a traité de cette question dans son article sur Mater Deum Salutaris, publié en 1912. Il y explique les raisons de la présence de Cybèle auprès des sources, mais il va un peu vite pour l'associer à telle ou telle source, notamment en Occident, car il lui suffit souvent de trouver l'attestation d'un culte de la Grande Mère dans une cité qui contient par ailleurs une source thermale pour conclure à l'association de la Salvatrice à cette source, comme Claude Bourgeois, une fois de plus, l'a déjà signalé à bon droit. On se méfiera aussi de l'assimilation du culte de Cybèle à la tradition préhistorique générale d'un culte des eaux. Pour tous les fantasmes sur la mer, et je terminerai par cela, on consultera avec profit le livre de Philippe Bourgeot sur la mer des dieux. Et donc nous nous retrouverons d'ici deux semaines, dans trois semaines. Je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.